Kezako.
Kezako. Et vous trouvez ça drôle?
Kezako?
Non, moi non plus.
Kezako, Marine Gabory, Mathilde François, sur Sun.
Chers auditeurs, voici déjà la fin de la saison pour Kezako avant une pause estivale pleine de promesses. Après une année à explorer les mots les plus surprenants, ceux qui font voyager, ceux qui donnent envie de s'engager, nous avons choisi de clore ce parcours de mots et de portraits en accueillant Catherine Blondeau. Sourire franc et regard décidé, merci Catherine Blondeau d'avoir accepté notre invitation.
Et pour commencer en une phrase, Catherine Blondeau, Kezaki.
Qui êtes-vous?
Qui suis-je? C'est une vaste question. On dit toujours qui suis-je, dans quelle étagère, c'est ça? Et aujourd'hui, je dirige Mixte, qui est donc une institution culturelle, qui est la résultante de la fusion du Grand T, un théâtre qui se trouve dans le quartier Saint-Donatien, Nantes, et d'une agence départementale musique et danse en Loire-Atlantique. Et donc, on s'appelle Mixte, terrain d'art en Loire-Atlantique.
Mais avant d'en arriver là, aujourd'hui, on aimerait bien vous demander quel a été votre parcours pour arriver justement aujourd'hui à la direction de Mixte.
Oui, alors mon parcours, il est un peu sinueux. Il passe par diverses professions et plusieurs pays, puisque j'ai commencé ma carrière professionnelle comme prof de français, prof de lettres, au collège, au lycée, puis à l'université, où j'ai été maître de conférences en littérature pendant un certain temps. Et parallèlement, j'étais très investie dans des associations culturelles, comme vous, notamment des associations de musiciens. Et à un moment donné, je me suis dit, oh, tiens, mais est-ce que j'en ferais pas mon métier? J'hésitais, etc. Et puis, j'ai postulé sur les conseils d'un musicien, d'ailleurs, dans le réseau culturel français à l'étranger. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. La France a des instituts français dans le monde entier qui organisent de la coopération culturelle entre le pays d'accueil et puis la France. Et contre toute attente, j'ai été prise pour diriger l'Institut français de Johannesburg en Afrique du Sud. Donc en 1998, j'ai tout lâché et je suis partie en Afrique du Sud pour 4 ans. Ensuite, j'ai fait le même métier en Pologne, à Varsovie. Donc, j'étais attachée culturelle et donc à organiser des coopérations entre la France et la Pologne. Avant, c'était la France et l'Afrique du Sud et plus largement, disons, l'Afrique australe. Et quand je suis rentrée en France en 2006, je suis retournée un peu à l'université où j'ai mis en place un master de formation au métier de la culture. Bon, il y avait une logique. Et puis, suite à ces diverses pérégrinations, j'ai posé ma candidature à la direction du Grand T et je suis arrivée à Nantes comme ça en 2011. En janvier 2011, j'ai pris la direction du Grand T.
Alors, vous avez un parcours qui est assez international et est-ce que cette expérience de d'autres cultures, elle a eu une influence sur votre manière de travailler, de diriger le Grand T aujourd'hui Mixte ?
Bah oui, évidemment. Je dirais que d'abord d'une manière générale, parce que le fait de travailler comme Français dans un pays étranger et d'être en charge d'organiser des coopérations, ça veut dire des rencontres en fait entre des artistes des deux pays ou des professionnels de la culture des deux pays, ça apprend la coopération. Et la coopération, c'est d'abord l'écoute. L'écoute du terrain, l'écoute des attentes, et puis l'imagination des combinaisons, d'une certaine manière. Et ça, bah, je l'ai énormément mis en œuvre au Grand T, qui a toujours été un théâtre tourné vers des questions de coopération, notamment avec toute sa dimension d'animation du territoire de toute la Loire-Atlantique, puisque ce théâtre, il a des connexions, pas seulement avec son grand bâtiment de Nantes, mais aussi avec des théâtres ou des porteurs de projets dans beaucoup de villes de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, c'est 19 salles partenaires et puis 12 porteurs de projets à l'échelle des intercommunalités. Bon, c'est un petit peu technique, mais... Et ça veut dire qu'avec tous ces gens-là, ça représente beaucoup de monde quand on se réunit, on choisit ensemble les artistes qu'on va soutenir, les spectacles qu'on va faire tourner, les résidences de médiation qu'on va mettre en place, l'éducation artistique et culturelle, etc. Donc ça, c'est une première dimension, c'est-à-dire dans mon ADN, il y a la coopération. Et puis la deuxième dimension, bah, évidemment, c'est un tropisme vers l'Afrique et les arts et le spectacle vivant venu du continent. Car évidemment, le fait de vivre 4 ans à Johannesburg, ça m'a beaucoup changé comme personne, tout simplement. Et du coup, comme professionnel aussi, ça m'a fait découvrir tout un champ que j'ignorais. Et donc, on va retrouver pratiquement depuis ma prise de direction en 2011 et jusqu'à aujourd'hui, on va trouver des traces de cet intérêt fort pour la production artistique africaine dans les saisons du Grand Thé hier et de Mixte demain.
Alors, non seulement vous travaillez comme voilà dans les coopérations culturelles, mais vous êtes aussi aujourd'hui écrivaine. Vous avez écrit 2 romans, si je ne me trompe pas, dont l'un d'entre eux aborde plutôt votre propre vie. En tout cas, c'est un exercice d'autobiographie. Qu'est-ce que cet exercice, justement, vous a apporté? Je crois que c'est en lien avec votre expérience en Afrique du Sud.
Oui, parce que c'est... Alors, il y a une matière qui est autobiographique. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est un peu plus de l'autofiction, puisqu'il y a beaucoup de petits récits, de narrations qui sont inspirés de faits vécus. Mais c'est quand même tourné autour d'une thématique principale, qui est la thématique raciale, puisque ce que je raconte dans ce livre, qui s'appelle « Blanche », c'est le fait que j'ai découvert, le jour où j'ai mis le pied en Afrique du Sud, donc en 98, 4 ans après l'élection de Mandela et la fin de l'apartheid, j'ai découvert que j'étais blanche. J'avais 34 ans. Et cette question ne m'avait jamais effleurée. Donc, on est en 98. Donc, c'est les débats qu'on connaît aujourd'hui qui animent les polémiques, etc., n'existaient pas. La domination blanche était très bien installée et admise et ne questionnait personne, en fait. Et moi, c'est en arrivant, en mettant le pied en Afrique du Sud, que j'ai compris que tous les gens autour de moi me regardaient comme une personne blanche, avec tout ce que ça implique de privilèges, de façon de vivre, de rapport à la consommation, à l'argent, au bien-être, à la santé. Et des choses qui m'avaient jamais effleurées auparavant. D'autant plus que je viens d'un milieu populaire. Mon grand-père était illettré, mon père était ouvrier. Du côté de ma mère, c'est une famille très rurale. Et donc, je me considérais comme une personne, je dirais, de la classe ouvrière. J'avais fait mon petit parcours et je me voyais pas encore, parce que la notion n'existait pas encore, mais en fait, j'avais mon petit parcours de transclasse qui donne beaucoup de satisfaction, parce qu'on a l'impression qu'on s'est fait tout seul, et etc., etc. Et puis là, ce qu'on me renvoyait, c'est que je n'étais pas du tout une fille du peuple qui s'était sortie du lot à la force de son travail et de je ne sais quoi, de ses talents innés, mais j'étais une personne blanche qui avait beaucoup de privilèges. Et j'ai beaucoup, beaucoup résisté à accepter cette réalité. Et donc, je raconte avec un peu d'humour, en montrant plein de situations où je suis un peu en porte-à-faux, un peu assise du bout des fesses sur une chaise en essayant d'être assise sur une autre, de tout ce chemin intellectuel qui a été le mien pour comprendre ce que voulait dire le fait d'être blanc et aussi de comprendre ce que voulait dire aussi en retour ce que veut dire être noir, métisse, racisé, comme on dirait aujourd'hui, tout ce que ça implique dans vos possibilités dans la vie et tout ça. Et donc ça raconte un peu tout ça et en même temps, c'est pas... Alors, il y a peut-être un peu de militantisme là-dedans, mais mon point de vue aussi, c'est de dire, avec toutes ces questions, comment on va retrouver l'universel? Parce qu'on en a besoin pour accomplir notre humanité. L'humanité n'est pas blanche, noire... ce qu'on veut. L'humanité, pour se réaliser, elle a besoin de solidarité, elle a besoin de collectif entre les communautés. Et c'est un peu la question que pose le livre aussi. Comment reconstituer des communautés humaines avec des objectifs communs, avec des communs qui sont le soin aux vivants, le soin aux plus précaires, etc. Quand nous sommes aussi séparés, ségrégés entre race, classe, etc., etc.
Le passage à l'écriture, c'était une évidence pour vous? C'était quelque chose que vous souhaitiez faire depuis longtemps?
C'est-à-dire qu'au départ, je suis une très grande lectrice. Je suis un peu une lectrice addictive. Ça, je l'ai toujours été depuis la petite enfance. Et donc, j'avais un rêve d'écriture dans ma vie depuis longtemps, que j'ai à plein de reprises mis de côté, et puis auquel je me suis vraiment attelée en rentrant de mes séjours à l'étranger, parce que justement, j'avais l'impression que ça avait été des expériences tellement riches et qui n'étaient pas très partageables dans des dîners en ville, en fait, parce que ce sont vivre et travailler dans un pays très différent du vôtre, ça vous décentre complètement, ça vous bouleverse émotionnellement, intellectuellement, concrètement aussi. Et donc, j'avais envie d'en faire quelque chose. Et je me suis lancée dans l'écriture d'un grand roman épique, si on peut dire, qui raconte la vie de personnages qui vivent, une femme polonaise, un sud-africain qui se retrouve un peu par hasard dans une petite ville de Dordogne en France, qui est une petite ville touristique et tout ça. Puis c'est toutes leurs aventures qui vont me permettre de tirer des fils sur l'histoire des deux pays et la manière dont ils ont traversé un peu ces pays, le XXe siècle. Donc je me suis lancée là-dedans et puis ça a été une expérience très, à la fois très heureuse parce que j'étais enfin à un endroit dont je rêvais depuis longtemps et puis d'autant plus heureuse que j'ai réussi à être publiée, ce qui n'est jamais facile pour un auteur et ce qui m'a amenée à continuer et à écrire ce deuxième opus dont on a parlé, Blanche.
Et vous avez imaginé un jour peut-être écrire pour du théâtre ?
Eh ben, curieusement non. C'est-à-dire que ma matière, c'est vraiment le récit. J'adore les récits, j'aime les histoires. Et si j'écrivais autre chose que des romans, ce serait des scénarios. J'adore les situations qui s'imbriquent, les effets de surprise, les échos, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que mes textes sont quand même imprégnés de théâtre parce qu'il y a beaucoup de dialogues dans le grand roman épique là que j'évoquais qui s'appelle Débutant, qui parle justement du fait qu'on est tous débutants en humanité, par où on commence. On croit qu'on est à la fin de quelque chose, mais en fait non, c'est tout à fait le début. Et dans Blanche, c'est pareil. Il y a beaucoup de, comme je disais, beaucoup d'humour. Donc il y a beaucoup de scènes où il y a des dialogues un peu absurdes, où chacun reste campé sur ses positions. Donc presque du dialogue un peu philosophique, la manière un peu les dialogues platoniciens. Là, on essaie d'accoucher d'une idée. Alors je me prends pas pour Platon, mais justement, je crois. Et finalement, ça relie un peu ce que je disais sur la coopération au début, l'écoute. Le dialogue, c'est-à-dire dans l'écoute et l'attention à ce qui n'est pas soi, à ce qui est différent, à des points de vue autres, que on progresse soi-même. C'est pas en restant campé sur ses positions, plein de certitudes, mais que le dialogue, etc. Donc, c'est plutôt à cet endroit-là. Et curieusement, non, je suis pas tentée par l'écriture théâtrale. Pourtant, évidemment, par mon métier, je vois quasiment 100 pièces de théâtre par an, j'en vois tout le temps, et j'adore ça, évidemment. Mais peut-être c'est une manière de séparer un petit peu l'activité professionnelle et quelque chose de plus intime pour moi qui est l'écriture.
Dans Kezako, Catherine, on aime les mots. Et justement, dans votre actualité, il y a ce nouveau mot « mixte ». Et on aurait bien voulu que vous nous racontiez ce qu'il vient raconter. Quelle est la promesse de ce nouvel établissement mixte ?
Alors, effectivement, il m'arrive souvent de dire « mixte porte bien son nom ». C'est donc un nouvel établissement. Alors, j'essaie de ne pas dire théâtre, parce que justement, c'est beaucoup plus qu'un théâtre. Alors, que veut dire ce mot « mixte » ? Alors, c'est la mixité des disciplines, déjà, puisque la réunion de nos deux maisons fait que on va pouvoir y trouver des spectacles et des artistes qui travaillent dans le domaine du théâtre, du cirque, de la danse, de la musique, des marionnettes, du théâtre d'objets, etc. Donc il y a beaucoup de mixité. On est dans le spectacle vivant, mais de beaucoup de disciplines différentes. Et on va, je pense, être particulièrement attentif aux endroits où les disciplines se mêlent, dans la pluridisciplinarité et tout ça. Donc ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec la coopération. On est en train de finir les travaux d'un équipement absolument magnifique dans un grand jardin d'1,5 hectare. Ça va être un lieu formidable, avec aussi un restaurant, avec plein d'espaces divers, etc. Mais c'est aussi ce lieu, la base d'un projet qui étend ses activités à l'échelle de tout le département de la Loire-Atlantique, aussi bien dans des théâtres que dans des écoles, des collèges, des EHPAD, des bibliothèques, des médiathèques. Donc ça, c'est l'ADN vraiment de Mixte, qui est dont les principaux financeurs sont des collectivités publiques, au premier chef le département, et donc département, ville et ministère de la Culture. Et tous nous ont donné ces missions d'animation du territoire. Donc c'est dans cette mixité aussi ville, grande ville, métropole et territoire de villes intermédiaires, voire il nous arrive, comme la saison prochaine, de faire du théâtre dans les paysages, c'est-à-dire dans l'espace public, des espèces de randonnées théâtrales. Donc on revendique cette diversité-là d'espace. Et puis notre ambition, et je dirais presque notre utopie, c'est aussi d'être un lieu et un projet qui mélange les gens, c'est-à-dire qui ne les mette pas tous dans des cases. Et donc, notre utopie, mais ce à quoi on travaille collectivement, toute cette équipe, c'est de s'assurer que au sein de ce lieu et dans toutes nos activités se croisent des gens d'âges divers, d'origines sociales diverses, peut-être aussi pour faire des choses diverses, c'est-à-dire il y a les spectateurs, donc ceux-là on les connaît, hein. On met quand même sur le marché, entre guillemets, 80 000 billets de spectacle, donc ça fait du monde. Mais le lieu demain et nos activités par ailleurs sont ouvertes aussi aux pratiques amateurs, bah, avec le jardin à la promenade, on a envie d'accueillir des cafés citoyens, on a envie d'accueillir des gens du quartier qui ont leurs propres projets, etc. Et donc de faire du lieu nantais un espace qui soit fréquenté à la fois par des artistes, évidemment, les salles de spectacle, les salles de travail, de répétition, des spectateurs, on va dire c'est les professionnels, disons, que ce soit du côté des spectateurs ou des artistes qui vont fréquenter le lieu, mais aussi toutes sortes d'autres gens qui vont passer par là, des promeneurs, des enfants, des instituts, des écoles du voisinage qui vont venir faire l'école dehors, des gens qui vont cueillir des fleurs, des assos qui vont mettre des ruches, je ne sais pas, enfin bref. Donc cette mixité d'usage, elle est aussi au cœur du projet, et c'est pour ça qu'on a choisi finalement ce nom, Mixte, sans E.
Et alors que les vacances d'été arrivent à grands pas, est-ce que vous pourriez nous faire un petit point sur l'actualité estivale de Mixte, justement ?
Alors, l'actualité estivale, nous allons développer un dernier projet dans le quartier de l'Alvec, les 27, 28 et 29 juin, avec une compagnie nantaise qui s'appelle Les Maladroits et qui est en résidence dans ce quartier depuis toute une année. Et là, ils vont proposer au public, l'Alvec, c'est aussi le quartier de la locomotive, c'est les anciennes Batignolles, donc c'est un quartier qui est très marqué par une histoire de train, de gare, de rail, etc. Donc ils vont proposer, ils ont travaillé avec les habitants, à justement un spectacle itinérant qui va emprunter un petit train touristique. Au lieu de faire le tour des espaces touristiques de Nantes, on va faire le tour du quartier. Et à différents endroits, les habitants et les artistes ont préparé des surprises. Donc ça, c'est une actualité de fin juin. Ensuite, notre actualité, c'est quand même le chantier. Ça travaille, ça continue de travailler. Là, j'ai quitté ce matin le local et il y avait plein d'engins qui travaillaient le terrain parce qu'on est aussi en train de commencer à préparer les espaces qui vont être plantés, arborés à l'automne. Donc ça, c'est une actualité assez forte aussi. Et puis, à la fin de l'été, Mixte va commencer à apparaître avec une coopération, justement, avec les Rendez-vous de l'Erdre. Quatre propositions Rendez-vous de l'Erdre qui mêlent musique et texte. Donc, mixité des disciplines. Bon, je m'arrête là peut-être pour parler de l'été, sachant que on a donc fait notre conférence de presse cette semaine et que la billetterie ouvre le 18 juin.
D'accord. Donc, suite de la programmation à découvrir à partir de septembre, c'est ça ? Et pour une première partie de saison, La suite étant dévoilée à partir de décembre, si je me trompe.
Alors, la situation de Mix est un peu spéciale, puisque comme l'équipement nantais est encore en chantier, les activités commencent donc fin août, tout l'automne, mais sans équipement. Donc, on va être dans les villes du département, comme je l'évoquais tout à l'heure, et on va être aussi hors les murs, à Nantes, comme on l'a été depuis 3 ans que l'équipement est fermé pour travaux. On était dans nos saisons mobiles, donc on recommence un petit peu de mobilité. Et on va être à Sainte-Luce, on va être sur le parc des chantiers avec un beau spectacle de cirque, on va avoir des concerts, etc. Donc on a pas mal de propositions. Mais on ne dévoile rien de ce qui va se passer à partir de l'ouverture du site, qui est prévu pour décembre, mais je ne vous dirai pas la date, même sous la torture. Et là, on commencera à parler de tout ça au courant du mois d'octobre. C'est-à-dire, on commencera à annoncer les festivités d'ouverture, parce qu'évidemment, on a préparé des belles propositions artistiques et des propositions aussi pour les habitants du quartier, pour les parents, pour les enfants, etc., qui vont se passer pendant la séquence d'ouverture. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on dévoilera aussi la suite de la saison de janvier à juin. Donc, il y a encore un peu de surprises.
Merci Catherine.
Et pour continuer avec les surprises, on poursuit avec quelques questions de l'emblématique questionnaire de Proust que nous avons mixé avec celui de Bernard Pivot. Est-ce que vous êtes prête ?
Je suis prête. J'ai le trac.
Votre mot préféré ?
Mon mot préféré, turbulence.
Le mot que vous détestez.
Distanciel.
Votre drogue favorite.
La purée de pommes de terre.
Le son ou le bruit que vous aimez.
La musique.
Quel est votre geste favori?
Qu'est-ce que je fais tout le temps? Je crois que je me gratte le menton.
Votre juron ou blasphème favori?
Crotte de bique.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné?
Un magnolia.
Votre héroïne ou votre héros favori?
Ça va être une écrivaine, Goliarda Sapienza, parce qu'elle a écrit L'art de la joie.
Le don de la nature que vous aimeriez avoir?
J'aimerais pouvoir faire de la course en montagne, mais je n'ai aucune capacité cardiaque, donc c'est un rêve qui n'aboutira jamais.
Et pour finir, qu'est-ce qui est beau?
C'est la joie collective.
Merci Catherine d'avoir accepté d'être l'invitée de ce Kezaki engagé. Chers auditeurs, nous vous invitons vivement à suivre l'actualité estivale de Mixte, mais également à la rentrée, et donc à rester attentifs à sa programmation.
Et pour clore cette émission en musique, nous avons choisi pour vous Pata Pata de Myriam Makeba, un clin d'œil à vos années en Afrique du Sud et au parcours militant de Myriam Makeba. Pata Pata, c'est tout de suite sur Sun.
Voilà, Kezaki et Kezako, c'est terminé pour cette saison. Mais promis, on se retrouve en septembre avec plein de nouveaux mots à tourner, à retourner et à décortiquer. D'ici là, que l'été amène vos pas du côté de Mixte et dans tous les cas, vers des chemins joyeux et ensoleillés. Bel été sur Sonne.
Merci à vous.
Merci à vous.
Kezako, en replay et en podcast sur MySonne et leSonUnique.com.